canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio.
Bonjour Alain.
Bonjour Chantal, bonjour Raphaël, et merci pour ces premières parties. Et on accueille aujourd'hui notre invité, Jean Gilli, le spécialiste du cinéma italien, qui vient de nous parler d'un petit ouvrage de presque 500 pages. Je suppose des années de travail, on en parlera un peu plus tard, donc qui s'appelle Tout sur Pasolini. Voilà, on parlera donc des centenaires, puisque 2022, en fait, le centenaire de beaucoup d'acteurs, réalisateurs, directeurs de la photo italiens, un petit peu des films italiens qu'on peut voir en ce moment, et puis essentiellement de Pasolini. Voilà. Mais on va commencer par notre petite rubrique western avec Te Pepa.
Quando le colt cantavano in italiano. Canzoni e cantanti italiani. Nei western di casa nostra. Au Mexique, le gouvernement Madero édicte des lois qui déplaisent au peon Te Pepa, qui continue sa lutte contre les troupes gouvernementales commandées par le terrible colonel Cascoro.
Credete che sia giusto che se Madero ha tradito la rivoluzione, dobbiamo tradirla anche noi? E voi credete che sia giusto se Madero si siede, dobbiamo sedersi anche noi?
No!
E credete che sia giusto che se Madero cacca, dobbiamo caccare anche noi?
No!
No! Se Madero cacca, noi cacchiamo su Madero!
Te Pepa, un film réalisé par Giulio Petroni en 1968. Une bataille sanglante va opposer l'armée du colonel aux révolutionnaires commandés par Te Pepa. Aidé par un gringo, le docteur Henry Price, il va mener ses compagnons à la victoire. Le colonel Cascoro va y laisser la vie et Te Pepa y sera blessé. Le docteur va-t-il l'aider et le soigner? Un docteur au lourd secret, qu'une envie de vengeance obsède depuis des années. Avec Thomas Millian, John Steiner et la participation extraordinaire d'Orson Welles dans le rôle du colonel Cascoro. Te Pepa, un western grandiose, destiné à rester dans l'histoire du cinéma. Te Pepa, un nom puissant, un cri de ralliement pour tous les déshérités du monde. Un film qui vous enthousiasmera par sa magistrale interprétation et ses acteurs à la renommée internationale. Et un hymne à la liberté, chanté par Christie sur une musique d'Ennio Morricone.
Mexico, Mexico.
Thank you.
Messico, Messico, tu sei la casa che pensai, la realtà dei sogni miei, dei sogni che io non ho più. Messico, Messico,
on va quitter le Mexique pour retrouver notre Italie avec Jean Gilly, que je remercie encore une fois d'être là ce matin. Jean Gilly, pour qui ne le connaîtrait pas bien encore, il faut savoir que c'est un critique, historien du cinéma et particulièrement spécialiste du cinéma italien. Créateur avec Jean-Pierre Giancola et Vincent Pinel du Festival de cinéma italien d'Annecy en 83. Qui a écrit des articles dans de nombreuses revues, notamment Positif ou Le Jeune Cinéma, qui a écrit de nombreux ouvrages, des portraits comme de Francesco Rosi, Moretti, Comencini, Mastroianni, ou bien sur la comédie italienne, et plus récemment, qui a dirigé toute une équipe dans une sorte d'encyclopédie qui s'appelle L'Italie au miroir de son cinéma, en trois volumes, édité par nos amis Radici de Toulouse. Et puis, donc, pour commémorer le centenaire de la naissance de Pier Pasolini, sous la direction de Jean Gilly, mais avec Roberto Chiesi, Silvana Cirillo et Piero Spilla, cet ouvrage qui est vraiment la Bible, qui se dit dictionnaire encyclopédique pasolinien, vraiment tout sur tous les aspects par ordre alphabétique de Pasolini, qui était un personnage très riche. Avant d'arriver à Pasolini, je voudrais qu'on ait l'avis de Jean Gilly sur les quelques films qu'on peut voir en ce moment à Paris, notamment le Re Granchio, je ne sais pas s'il est encore sur les écrans, mais qu'on a vu à la fin de cette année, de Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis.
Oui, il y a deux films italiens récents qui méritent absolument d'être vus, c'est celui-ci, Re Granchio, et c'est aussi Piccolo Corpo, de Laura Samani, qui est une cinéaste, c'est un premier film, et ça montre aussi que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le cinéma italien est en perpétuel renouvellement. Il y a beaucoup de jeunes cinéastes, alors il n'y a peut-être pas des noms aussi connus, il n'y a peut-être pas des débuts aussi éclatants que certains des cinéastes qui ont commencé dans les années 60-70. Donc aujourd'hui, le cinéma italien souffre un peu d'un déficit d'image, aussi bien pour ses metteurs en scène que pour ses acteurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a déficit d'image qu'il y a déficit de créativité. C'est même tout le contraire.
Oui, souvent on reste encore sur l'image de la grande époque du cinéma jusqu'aux années 75, du cinéma italien. Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau même avec Garonne et autres. Alors, dans un style aussi original, Freaks Out de Gabriele Mainetti.
Oui, alors ça aussi, c'est une tentative très originale qui a été loin de faire l'unanimité. C'est une espèce de recréation du monde du cirque pendant l'occupation allemande en Italie qui revient sur cette période dont on n'a pas fini de faire le tour, cette période singulière où on voit l'Italie qui avait été l'alliée de l'Allemagne dans le cadre de l'axe Rome-Berlin, qui devient l'ennemi de l'Allemagne, et l'Allemagne occupe l'Italie. On va avoir une occupation italienne, une occupation de l'Italie par l'Allemagne de l'automne 43 au printemps 44, qui sera effroyable.
Oui, à partir du 8 septembre et de l'armistice,
en effet. Et donc le film essaie de rendre compte de ça de manière un peu grotesque, un peu humoristique, un peu spectaculaire.
Ah oui, avec des effets spéciaux, vraiment, à l'américaine, et un budget américain.
Voilà, justement, ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas fait avec un budget colossal. Quoi. C'est fait avec un budget italien, c'est-à-dire des moyens sur l'écran.
Aussi, quoi. Oui, dans ce film. Et ce film du Calabre, Michelangelo, Fra Martino, Il Buco.
Il Buco. Alors, c'est exactement le contraire, oui, dans le fond. Hein. D'un côté, on a un film qui fait débauche d'effets, débauche de mise en scène, de décors, de recréation aussi spectaculaire que possible. Et d'un autre côté, un cinéaste zen, un cinéaste minimaliste, qui raconte, mais qui raconte même pas, qui montre simplement des spéléologues. On est au début des années 60 et il faut faire l'effort de se rappeler qu'on est 50 ans en arrière, s'enfoncent dans un gouffre et vont descendre à moins 600 mètres, qui à l'époque constituait un des records de profondeur atteints par des spéléologues. Et il met ça en scène, mais avec une discrétion telle qu'on peine d'ailleurs à comprendre quel est l'objet du film.
Oui, mais bon, on vit ce moment pratiquement sans parole. Mais il y a aussi l'histoire d'un berger qui est là, à qui il arrive aussi une aventure. Et il a des très belles images de paysage. Et l'image est signée Renato Berta, qui est
oui,
quand
même un des
grands.
Oui, alors ça, effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner la contribution de Renato Berta, qui est certainement un des grands chefs opérateurs en activité aujourd'hui, et qui signe des images. J'ai un ami d'ailleurs qui me disait le film devrait être signé Fra Martino et Berta,
l'image est aussi importante que le scénario et que le jeu.
Et puis la manière dont il filme la mort d'un vieux berger qui entre d'abord en état un petit peu d'inconscience, puis va mourir. Avec une délicatesse, la manière dont le corps est emporté avec un brancard qui traîne au sol parce qu'il n'y a pas de roue, donc ce brancard est attaché à un cheval qui va tirer le corps pour le redescendre dans la vallée jusqu'au village. Et tout ça est fait avec une discrétion totale qui fait que parfois on se demande où on va et les clés ne nous sont données qu'à la fin.
Non, mais on ne s'ennuie pas, on est passionné, on est pris par cette intrigue. Et... Oui, donc on voit qu'il y a quand même du renouveau dans des styles, en effet, différents, et qui sont plus typiquement italiens, je trouve, qui sont des thèmes universels, comme par exemple Il Buco, ou le Piccolo Corpo. Pour revenir au Piccolo Corpo, au début, il est tourné dans la lagune de Grado, donc au Frioul, où Pasolini a également tourné l'enfance de Jason dans son film Médée.
Oui, il faut dire d'ailleurs, là, juste une parenthèse, c'est que l'Italie, en effet, de par sa configuration géographique de l'extrême nord à l'extrême sud, offre une variété de paysages qui sont là pour les cinéastes.
Oui, c'est vrai. Et un dernier, qui est Miss Marx, de Susanna Nicchiarelli.
Alors ça je dois confesser que je ne l'ai pas encore vu.
Ah bon.
Mais d'après ce que j'en sais, ça doit être passionnant, quoi, l'idée de s'intéresser à la fille de Marx.
C'est ça,
Eleanor, par une cinéaste italienne.
Voilà. Alors, sauf que Eleanor est née à Londres, puisque c'était l'époque où Marx vivait à Londres, et donc elle se filme par l'anglais. Et il y a une musique qui est vraiment très surprenante au début, et après on s'y fait. Mais donc c'est le trajet d'une femme qui s'émancipe de à la fois de son mari, qui est un type pas très intéressant, mais enfin on a Marx, on a Hegel, et puis elle travaille pour la liberté, surtout que les enfants ne travaillent plus, et la liberté de la femme, enfin que la société s'améliore. Et c'est vraiment un film
formidable. C'est une jeune metteur en scène qui avait fait Nico précédemment sur une star de la pop, qui était également formidable.
Ce qui est très étrange, c'est que cette musique est si pop et rock, mais ça va très bien avec le combat que mène cette Miss Marx. Et voilà, donc je conseille aussi. Donc on va en revenir un petit peu à notre sujet. Donc les centenaires, d'abord, il n'y a pas que Pasolini dans les centenaires, puisqu'on a parmi les acteurs Gassman, Toniazzi, Adolfo Celli, Vianello, Sergio Reggiani. Donc bon, on connaît tous ces acteurs. Mais aussi Tonino Delicoli, ce directeur de la photo qui a beaucoup travaillé avec
Pasolini.
Ah ouais. Et puis parmi les réalisateurs, Pasolini, Francesco Rosi, Bolognini, qui était son ami pour les premiers scénarios de Bolognini, avec comme co-scénariste Pasolini, Luciano Salce, qui a commencé avec des péplums pour terminer avec les films de Fantozzi, Lizzani, et ce Damiano Damiani, qu'on peut voir, dont on peut voir la rétrospective à la Cinémathèque jusqu'au 29, avec donc aujourd'hui deux films avec Catherine Spack qui nous a quittés il y a quelques jours, qui sont L'ennui, d'après Moravia, avec donc Catherine Spack et Betty Davis. Et puis, ensuite, à 20h, on a Ragazza piuttosto complicata, toujours Catherine Spack et Jean Sorel, qui étaient tous les deux très jeunes et très beaux à l'époque. Francesco Rosi également, donc le contemporain complètement de Pasolini. Alors, moi, j'ai pensé qu'il y a encore trois personnes qu'on aurait pu rencontrer, dont un qui est centenaire cette année, qui est Raffaele La Capria.
Napolitain, collaborateur de Rosi.
Et voilà, dans les mains basses sur la ville notamment, et qu'on a reçu dans ce studio, je pense que c'était en 2006, quand l'Italie était l'invité d'honneur du Salon du Livre. Oui. Pour l'Harmonia Perduta. Et donc, il aura 100 ans en octobre, et il a encore donné une interview, là, au Manifesto, qui est paru le 5 mars, le jour vraiment anniversaire de Pasolini. Aussi Dacia Maraini, qui a beaucoup connu Pasolini, la deuxième compagne de Moravia. Et puis, qui encore? J'oublie un troisième.
Parmi les cinéastes, il y a encore Franco Busati.
Busati, oui,
Luciano c'est ça.
Luciano
Salce. Voilà.
Oui.
Enfin, 22 était une année incroyable, 1922.
C'est vrai, oui.
Date de naissance de tous ces personnages liés au cinéma ou à la littérature.
Oui, 20, c'était Fellini et Sordi. Et puis là, donc. Alors. On va en arriver à ce Pasolini. Donc c'est Giorgio Gremese, qui a lui-même connu, qui a édité aussi dans les années 70 Pasolini. Et je ne sais pas qui est à l'origine, qui est le promoteur.
C'est-à-dire que Gremese s'est lancé il y a 2 ou 3 ans dans un projet similaire d'un livre consacré à Fellini. Également pour le centenaire de Fellini en 2020, puisqu'il est né en 1920. Le livre a eu un certain succès, et donc il a eu l'idée, à l'approche du centenaire de Pasolini, de lancer ce projet, parce que ce ne sont pas des projets qui se traitent en quelques mois, ça fait plus d'un an qu'on y travaille. Il a réuni d'abord des collaborateurs pour coordonner l'ensemble en répartissant. Moi, j'étais plus particulièrement chargé des contributions écrites par des Français, puisque l'idée était de faire un livre qui paraisse simultanément en Italie et en France, et qu'il y ait non seulement un certain nombre de contributeurs italiens, mais aussi de contributeurs français, ce qui permettait par ailleurs de ne pas avoir à traduire les textes, puisque évidemment les textes français ont été traduits en italien et les textes italiens ont été traduits en français pour les deux éditions. Et en plus, Gremese avait sollicité une aide du Centre National du Livre, qu'il a d'ailleurs obtenue, et qui a permis à ce livre coûteux, parce que même si on sent bien que l'éditeur a fait en sorte qu'on puisse faire un livre de 500 pages qui ne casse pas totalement son équilibre économique, mais quand même, c'est une entreprise courageuse que de se lancer. En plus, il y a un très gros cahier de photographies au cœur du livre. Donc, c'est une espèce de... Avec la volonté, ça a clairement déclaré de Gremese, de faire un livre qui ne soit pas un livre pour spécialistes, qui puisse être lu par des amateurs de cinéma, par des gens qui aiment le cinéma, par des gens qui aiment ce que fait Pasolini, qui a quand même eu une carrière d'une activité absolument incroyable. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que Pasolini était... Nous l'abordons ici comme cinéaste, mais c'était aussi un écrivain, c'était un journaliste, c'était un polémiste, c'était un poète. D'ailleurs, quand on additionne ce qu'il a fait dans la période la plus active de son existence, c'est-à-dire en gros une vingtaine d'années, et qu'on essaie de tirer les conclusions, c'est absolument sidérant, quoi. La puissance de travail, à un moment donné, il est malade, il reste chez lui pendant 3 semaines, et pendant ces 3 semaines, il en profite pour écrire
des pièces de théâtre.
Mais en quelques semaines, il écrit 4 ou 5 pièces de théâtre. Absolument incroyable.
À propos de pièces de théâtre, notamment une pièce pour Laura Betti, on va écouter, pour faire une petite pause, Laura Betti dans une chanson d'après un texte, donc, sur un texte de Pasolini qui s'appelle « La parade du suicide ».
pitié, pitié. Ce qui vous importe, c'est que je sois morte. Sans parole, sans un geste, sans visage, sous la terre, qu'elle finisse, vous dites, je le sais, tout ce bordel qu'elle a fait parmi nous. Pitié, pitié, gens du bon monde, chacun de vous gronde. Quand la brise, quand l'étouffe, quand l'écrase, la détruise, elle s'occupe, vous dites, seulement de jeter du tourment parmi nous. Pitié, pitié, gens de l'Église, je vous scandalise. Par mes vices, mon sang gêne, mes tendresses et ma haine. Que fait-elle, vous dites, comme ça, démoniaque tabou parmi nous? Pitié, pitié, gens de la foule, ma vie s'écroule. Et je tremble, je me cache, je suis pleine de ma haine. Qu'on la chasse, vous dites, c'est tout, car elle n'est pas comme nous, parmi nous. Pitié, pitié, gens bien en place, gens de police. Moi j'écoute vos menaces de violence, de supplice. La passion, vous vous dites, ne fait que troubler notre paix parmi nous. Pitié, pitié, gens d'hécatombe, lanceurs de bombes. Jetez celle qui s'amuse, qui se donne, se refuse. Mais oui, je suis finie, soyez tranquille. J'entre dans l'ombre, je vous laisse le monde.
C'était Laura Betti dans cette parade du suicide. On va donc venir à la filmographie de Pasolini. Donc Pasolini, après avoir été poète, être retourné dans son Frioul, où il a, après avoir écrit des poésies en Friulande, il est obligé de retourner, de se partir à Rome en 1950 pour des scandales. Les scandales qui ont suivi toute sa vie, aussi bien pour ses écrits que pour ses films, des scandales, des procès, chaque film était... Voilà,
pour ses mœurs, à l'époque font scandale,
bien sûr,
évidemment.
Bien sûr, surtout qu'il était ouvertement...
Dans les années 50-60, d'autant que la société italienne est une société très conservatrice,
bien sûr, catholique,
donc on peut comprendre que cela trouble les bien-pensants. Quoi.
Et un catholique communiste, c'est quand même de quoi aussi, un peu, en effet, bref. Donc ce personnage, donc, après avoir écrit, et puis arrivé à Rome où il rencontre les ragazzi, des borgates et le sous-prolétariat, commence son premier film qui est Acatone, avec des non-professionnels, sauf quelques amis qui feront des apparitions. Et c'est un film qui avait, il était prévu d'être produit par Felliris, la compagnie montée par Fellini et Rizzoli.
Et finalement, Fellini fait marche arrière.
Oui, oui.
Il est un peu... Fellini l'avait connu parce qu'il avait fait appel à Pasolini pour des scénarios. Il faut dire que, effectivement, l'arrivée de Pasolini dans le monde du cinéma se fait d'abord très naturellement, puisque nous sommes à Rome, et qu'à Rome, les milieux de la littérature, du cinéma, du journalisme s'interpénètrent, et tout le monde connaît tout le monde. C'est, finalement, du point de vue culturel, Rome est un microcosme. Pasolini, également pour des raisons économiques, d'ailleurs, il faut bien le souligner, beaucoup d'écrivains collaborent à des scénarios, signent des scénarios, par exemple Bassani collabore à plusieurs scénarios. C'est d'ailleurs Bassani qui amène Pasolini, le premier film auquel Pasolini collabore, c'est La fille du fleuve, La donna del fiume, avec Sofia Loren, et c'est un scénario auquel collabore notamment Bassani, et c'est Bassani qui amène, on est en 56, qui amène Pasolini à collaborer. Je dirais, moi, je suis persuadé que c'est d'abord pour le chèque. Et Pasolini accepte et va avoir la possibilité de signer un certain nombre de scénarios, de co-signer,
aussi,
notamment pour Bologna, où il en signera 5. Ce sera d'ailleurs un des épisodes les plus importants de la carrière de scénariste de Pasolini, et ce sera aussi un épisode important dans la carrière de Bolognini que la collaboration avec Pasolini. Ils ont le même âge en plus, donc le travail est facile. Et je crois qu'il y a une mutuelle admiration. Pasolini regarde un cinéaste très professionnel comme Bolognini, et Bolognini regarde ce garçon qui lui apporte des idées formidables. Ils sont par ailleurs homosexuels tous les deux, ce qui ajoute un petit peu à la sensibilité commune, partagée. Et cela va très naturellement amener Pasolini à franchir le pas. C'est-à-dire qu'en regardant notamment comment Bologna travaille, et en constatant que certaines choses, notamment l'utilisation des acteurs, que Bolognini fait appel systématiquement à des acteurs professionnels, alors que Pasolini aimerait faire appel à des acteurs non professionnels, directement pris dans les milieux populaires qu'il va lui-même porter à l'écran. Donc, je dirais que Bolognini l'aide à franchir le pas. Et il tourne à Catone, nous sommes en 61. C'est un film bouleversant. Quand on le revoit aujourd'hui, il a gardé une force absolument intacte, avec notamment la définition du personnage principal, Acatone, qui est joué justement par un acteur, un non-acteur, qui va se faire connaître et qui jouera ensuite assez régulièrement chez Pasolini, mais pas seulement, qui s'appelle Franco Cicci. Il va représenter cette vie des borgate, des périphéries pauvres de Rome, en nous montrant ces garçons désœuvrés qui souvent se livrent à la...
Soit prostitution, proxénète ou
proxénète, en mettant sur le trottoir des jeunes femmes qui ne savent pas résister ou qui ont une certaine naïveté dans leur comportement, comme on le voit au travers d'un des personnages du film. Et c'est ce monde très cru que Pasolini montre, et qu'il montre avec une franchise à laquelle on n'est pas habitué, sans aucune fioriture. En prenant ces personnages là où ils sont et en les amenant devant la caméra, à l'exception, comme vous l'avez dit, par exemple Adriana Asti, qui est une grande comédienne de théâtre et qui joue un rôle dans le film, un rôle de prostituée d'ailleurs. Mais à part ça, c'est essentiellement des acteurs recrutés sur place, tournés sur place. Évidemment, on n'est pas en studio, on tourne dans les rues, on tourne dans les quartiers pauvres de la périphérie romaine, pour aboutir à ce résultat de film qui, au début des années 60, est comme un pavé dans la mare.
Oui, oui. Et aussitôt procès pour atteinte aux bonnes mœurs, évidemment.
Absolument. Et on peut le comprendre. Souvent, il y a des choses qui surprennent, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, quand on voit Catone, et à mon sens, rien ne choque. On entre de plein pied dans le film. À l'époque, il n'en allait pas de même, et Pasolini a dû subir ainsi un certain nombre de procès dans lesquels était dénoncée son atteinte aux bonnes mœurs.
Alors, ensuite, justement, il va engager une grande actrice, la grande actrice romaine, la Anna Magnani, dans son Mamma Roma.
Dans son Mamma Roma. Alors là, ce qui est intéressant, au-delà de... du cas singulier de Mama Rome, où il prend deux personnages principaux, une mère et son fils. Le fils est un autre enfant des Borgate, Tore Garofolo, qui va jouer le rôle de ce gamin qui a été élevé à la campagne et qui est le fils d'une prostituée. Et la prostituée, c'est Anna Magnani. Et Anna Magnani, c'est Anna Magnani, c'est-à-dire une actrice d'une célébrité considérable, qui a été une des grandes figures du cinéma italien, de Rome, ville ouverte, in poi. Et cette mise en parallèle d'une actrice de métier très affirmée et de ce jeune garçon montre aussi tout un aspect de la démarche de Pasolini qui consiste à faire des patchwork. Il n'hésitera pas à utiliser Silvana Mangano, il n'utilisera pas, il fera appel à Toto.
Ou Massimo Girotti.
Massimo Girotti, il fera appel également à Orson Welles, il fera appel à Maria Callas. Donc il a une aptitude à prendre son miel là où il le trouve et à faire des collages, c'est véritablement des collages, entre des acteurs qui sont de traditions extrêmement différentes. Mettre ensemble Toto, Ninetto Davoli et Silvana Mangano, par exemple dans La Terre vue de la Lune, c'est absolument sidérant.
Oui, Silvana Mangano, aveugle, avec une perruque blonde. Et Toto, dont Pasolini détestait les films précédents, la carrière précédente, mais bon... Et Mama Roma, d'ailleurs, la cohabitation ne s'est pas très bien passée, mais à propos de parce qu'elle voulait avoir des scènes un peu plus importantes, alors que Pasolini faisait des scènes très courtes ou des gros plans face caméra. Et bien, enfin, à propos de Mama Roma, je voudrais venir aux études de Pasolini, notamment en peinture, avec Longhi, Roberto Longhi, parce qu'on retrouve à la fois. Il y a des images, très belles images, y compris la fin. Alors la mort aussi est présente dans presque tous ces films. Hein. Là, le jeune fils donc de Anna Magnani meurt et on le voit allongé sur cette table en prison. C'est une figure christique qu'on retrouvera dans beaucoup de films d'écrits de Pasolini.
Oui, parce que en fait, il avait été très marqué par l'iconographie de la peinture italienne du Quattrocento, du Cinquecento,
Mantegna, Masaccio.
Masaccio, et aussi les maniéristes florentins, Rosso di San Secondo, par exemple. Et je répète, Pasolini utilisait tout pour faire son miel. Il n'y avait rien qui ne lui soit étranger, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans le domaine de la peinture et que dans le cinéma, pour arriver à bâtir une œuvre d'une originalité totale et d'une ouverture totale. Et notamment, j'insiste là-dessus, sur les acteurs, il était capable... Alors, il faut ouvrir une petite parenthèse. Le cinéma italien est un cinéma qui double ses acteurs. On ne fait pas de, on n'enregistre pas en son direct, au moment de la prise de vue. Alors, ça a été souvent perçu comme un handicap. En réalité, pas du tout. Pour les cinéastes italiens, c'était la possibilité de faire appel à des acteurs de quelque origine que ce soit. Sans aucune contrainte, puisqu'après, on les doublait.
Claudia Cardinale, qui parlait, dont la langue maternelle était le français, était doublée.
Justement par Adriana Asti.
Et puis, Marina Vladi, qui a eu un prix d'interprétation pour Ape Regina, je ne sais plus quel est le titre français. Le lit conjugal de Ferreri a eu le prix d'interprétation qui a déclenché une polémique puisqu'elle n'était pas, ce n'était pas elle qui parlait. Mais c'est vrai que
il y en a eu aussi.
C'était la tradition à Fellini qui disait tu comptes jusqu'à 17 ou tu comptes jusqu'à 9. Et puis même certaines séquences, on voit l'acteur est de dos et puis on l'entend parler toujours parce que bon, voilà. Donc on s'en fiche, c'est ça le cinéma aussi.
Mais parfois c'était fait, le doublage était fait avec soin, mais le doublage était surtout vu comme l'occasion de pouvoir élargir sa palette de choix d'acteurs. On n'était pas obligé de prendre des Italiens pour ensuite leur faire jouer, ce qui est très important, des rôles d'Italiens. Dans La Ricotte, il y a même Orson Welles qui fait qui joue le rôle du metteur en scène, mais il ne joue pas le rôle, il n'est pas Orson Welles. Dans le récit du film, il joue le rôle de metteur en scène italien. En fait, c'est un double de Pasolini qui dirige son film.
Oui. Et qui en profite pour donner une petite coup de patte à Fellini, d'ailleurs. Un journaliste lui demande qui est Fellini. Bref, on va avancer. Le suivant, c'est un film, c'est une séquence d'un film à sketch, Ropopag, c'est La Ricotta.
C'est le film où il met en scène la mort du Christ, la crucifixion, et c'est par exemple là encore le bon larron qui est le protagoniste du film, Mario Cipriani, qui est encore un de ces non-acteurs. Qui a déjà un rôle important dans Acatone, parce qu'en plus, Pasolini était très fidèle à ses non-acteurs. Il était très fidèle, y compris, et là on retombe sur une question déjà abordée, qui est l'aspect économique. C'est-à-dire que ce sont des gens, ces non-acteurs, qui sont souvent originaires des bourgades, qui sont donc très pauvres, qui vivent dans des conditions difficiles, et en les faisant jouer dans des films, les contrats du cinéma sont évidemment des contrats beaucoup plus rémunérateur que ce qu'il pourrait gagner par ailleurs. Donc il les reprend souvent, et moi j'ai la conviction qu'une des raisons pour lesquelles il les reprend, c'est parce qu'il est attaché à ses visages, bien sûr, mais aussi parce qu'il leur donne la possibilité de travailler et de gagner un peu d'argent.
Oui. Alors là, un nouveau scandale, parce que c'est considéré comme un sacrilège, puisque le larron va manger la ricotta, justement, qui fait le titre du film. Je crois que finalement, le procès a été abandonné, a été classé sans suite. Alors, il y a des films de fiction, mais il y a aussi des documentaires, comme les Comizi d'Amore, et le grand film, pour moi, qui est mon préféré, qui est Il Vangelo secondo Matteo. En italien, c'est Matteo simplement. En français, il est devenu Saint Matthieu. Là, c'est pareil, c'est des acteurs.
Il Vangelo secondo Matteo. C'est effectivement un des plus beaux films. Et là encore, toujours cette habitude, qui joue le Christ? C'est un étudiant espagnol qui était venu voir Pasolini parce qu'il préparait une thèse sur Pasolini. Donc, c'est un étudiant de Barcelone qui était venu à Rome. Et quand Pasolini le voit, il a un visage qui me convient et il lui fait jouer le rôle du Christ. Donc, un rôle lourd, un rôle de protagoniste.
Oui, l'ange aussi, le Gabriel qui annonce qu'il était très beau.
Vraiment, sa disponibilité, son attention à ce qu'il entourait. Ensuite, il va beaucoup tourner, comme vous le savez, en décor naturel, notamment à Matera, le sud de l'Italie. Il avait envisagé au départ d'aller tourner en Palestine, mais ça s'est révélé trop compliqué. Donc finalement, la Palestine, il la retrouve dans le sud de l'Italie et les paysages.
Les ruines de Matera de l'époque.
Et c'est effectivement un peu un discours de la méthode, du point de vue de l'œuvre de Pasolini.
Les plans sont magnifiques, le désert, le bruit du vent. Et la musique aussi, Bach, Passion selon Saint Matthieu, Vivaldi aussi, et tous les acteurs, les gros plans, vraiment, pour moi, ce film, c'est le plus beau, il a été restauré il y a quelques temps, on retrouve encore, évidemment, la mort du Christ. Alors, certains ont fait beaucoup de parallèles entre la vie du Christ et la vie de Pasolini, qui a été aussi crucifié, ou du moins
Il y a un peintre français, enfin plutôt un affichiste, peintre, dessinateur, qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest, qui a dessiné un Pasolini qui... Enfin, un double Pasolini, un Pasolini Pietà, qui porte dans ses bras
lui-même, son
porte lui-même le corps de Pasolini comme un corps du Christ mort. Et c'est d'une force. Et alors, comme sa technique à lui consiste à préparer des sortes d'affiches qui représentent cette image, et ensuite à les coller dans des lieux emblématiques. Et notamment, il va les coller à Matera. Et on a ces images extraordinairement fortes de ce Christ mort dans les bras de Pasolini. Pasolini est en lui-même le personnage qui accueille son propre corps.
Et Pasolini qui fait tourner sa mère pour jouer la Vierge Marie qui...
Absolument. Qui... L'attachement de Pasolini voilà. Pour sa mère était bien connu.
Et oui, oui, qui était vraiment la seule femme. Je pense
il
qu'il
vivait avec elle,
aimé.
D'ailleurs. Hein,
oui, oui. Et cette mère qui avait déjà perdu son jeune fils, Guido, dans un...
Oui, le frère cadet de
voilà.
Pasolini. Quoi.
Oui, dans une histoire un petit peu compliquée entre les partisans, les communistes, pendant la guerre. Donc, il avait 19 ans, je crois, même pas 20 ans. Donc, ensuite, c'est Susanna qui interprète la Vierge Marie et la déposition. Les films, on va peut-être faire une petite pause musicale. Et on va écouter Sergio Endrigo dans Il Soldato di Napoleone. Ce Soldato di Napoleone, moi, j'ai lu le livre de Susanna qui s'appelle Il film dei miei ricordi. En fait, c'est un ancêtre de Colussi, de Susanna, qui s'est engagé dans les armées de Napoléon. Donc, on écoute Sergio Endrigo, Il Soldato di Napoleone.
Addio, addio casarsa, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù. Quando si alza il sole, al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo, di nascosto se n'è partito. Correva lungo il Tagliamento, e quando suona mezzodì, Vincenzo si presenta a Napoleone. Passati sette giorni, sono in mezzo al gelo, per conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati sette mesi, sono in mezzo al ghiaccio della grande Polonia, feriti e prigionieri. Spaventato il cavallo correva per la neve e sopraveva Vincenzo che ferito delirava. Gridava fermati cavallo, ferma, fermati ti prego, che ora che ti dia un mannello di fieno.
Vi racconterò il seguito della storia, per abbreviare. Il cavallo si ferma, Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza. Arriva Susanna, naturalmente, e salva Vincenzo Colussi, questo giovane italiano che vuole portarla via appena sarà guarito, perché con gli occhi nel petto l'ha ferito Susanna. Susanna però è già promessa sposa, ma dopo lacrime e un bacio rubato nell'orto come due colombi,
il giovedì santo che nascono rose e fiori, scappano dalla Polonia per saziare l'amore, la domenica di Pasqua che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia, la domenica di Pasqua che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia.
Voilà, on va laisser le soldat de Napoléon et on va aussitôt enchaîner avec Théorème, puisqu'on va parler de Théorème maintenant. C'est une séquence du Masque et la Plume que je me souviens d'avoir écouté, moi. Après la sortie de Théorème en France, c'est Charansol et Jean-Louis Bory au Masque et la Plume.
Place aujourd'hui à un
c'est
duel
très rapide.
Sur le ring, Masque et la Plume face à face, deux critiques de cinéma. À ma droite, Georges Charansol, journaliste aux nouvelles littéraires, cofondateur du prix Louis Deluc. Et à ma gauche, Jean-Louis Bory, journaliste au Nouvel Observateur et auteur du roman Mon village à l'heure allemande. Nous sommes le 2 février 1969 et c'est le film de Pier Paolo Pasolini, Théorème, qui est évoqué. L'histoire d'un jeune homme qui s'incruste dans une famille bourgeoise à Milan et qui séduit tour à tour la bonne, la fille, le fils, la mère et le père. Allez, le débat est lancé. Et d'abord, messieurs, est-ce pour vous un film capital, Georges Charansol?
Non, Théorème n'est évidemment pas un film capital puisque c'est un immense canular auquel se prête à l'unanimité la critique et moi-même ayant refusé d'en parler dans mon journal, j'ai donc collaboré à cette énorme mystification. Car il s'agit incontestablement d'une énorme blague montée entièrement par Pasolini, car lorsqu'on voit que le seul fait pour un jeune homme d'avoir été, comment dirais-je, détourné du droit chemin par un autre jeune homme,
oh, comme c'est
le conduit... Le conduit à faire de la peinture abstraite, je ne crois pas qu'on puisse prendre ça très au sérieux. Ah, c'est tout, je n'ai plus rien à ajouter, je laisse mon ami Bory pousser sa crise.
Merci, docteur Hanson. Avant de laisser votre ami Bory...
La crise vient.
Elle vient. Mais avant de laisser votre ami Bory...
Michel Aubryon.
Je ne vois pas en quoi... Incontestablement, il y a un côté mystificateur, mais je ne vois pas en quoi il est gênant. Il faut
admettre
l'ensemble d'une création
d'un
auteur
qui
est en même temps avec ses obsessions.
Oui, mais ça n'est pas un canular.
Après, ça relève la gauloiserie, en tout cas.
Non, justement, c'est là où le malentendu
s'installe. Jean-Louis Bory ne peut pas résister longtemps.
C'est là où Charansol offre le spectacle plus abominable que le français boujadiste n'en a fait. C'est que il a manifestement parcouru.
Il est tombé dans le piège du premier
page du film. Il s'agit d'un théorème, oui, le titre. Et Pasolini veut prouver quelque chose et le film est construit comme une démonstration. Il y a l'énoncé du théorème, la démonstration du théorème et les corollaires du théorème. Bon. Théorème. Dans la société actuelle, où la bourgeoisie avale, consomme, digère toutes les provocations révolutionnaires, il ne reste qu'un outil de révolution qui reste dans la gorge, ne poussez pas de mal, de la bourgeoisie, c'est le sexe. Et c'est le sexe nu, c'est-à-dire le sexe non camouflé en produit de consommation par la gauloiserie charansolienne ou par la pornographie, c'est-à-dire la sexualité, si j'ose dire, telle que la nature l'a faite.
Voilà, donc c'est deux avis avec un Charansol qui a pris le film vraiment au premier degré et puis Jean-Louis Bory qui a vu un peu plus derrière des intentions de Pasolini. Alors là, on a des acteurs, des stars. Oui.
Terence Stamp, Mangano, voilà.
Girotti,
Laura Betty qui joue le rôle de la
bonne qui va devenir une sainte s'envoler dans le...
Non, mais c'est un pamphlet contre la bourgeoisie et d'ailleurs à la fin le protagoniste, le père Massimo Girotti est un industriel et qui se déshabille dans la gare de Milan d'ailleurs au passage le tournage on est dans la gare de Milan dans la Milano Centrale nu dans la gare et qui a distribué tous ses biens à ses ouvriers quoi. Donc un homme qui c'est un riche capitaliste milanais qui se défait de sa richesse pour la donner à ses ouvriers.
Et qui va finir dans un désert en volcan.
Et qui va finir dans des paysages, je crois, filmés sur les flancs de l'Etna.
Oui, je pense que c'est un volcan. Donc, alors, bon, c'est surprenant, puisque là, en effet, c'est un personnage qui arrive et qui va bouleverser...
C'est un ange, c'est une apparition. Oui, voilà. C'est un personnage qui va essayer de réorienter la vie de tous les protagonistes qui tombent tombent tous sous son charme.
Quoi. Oui, voilà. Homme-femme, la mère, la fille, qui est Anne
Wiazemski, voilà, autre... laquelle est choisie, à mon avis, pour elle, mais elle est choisie parce qu'elle est la femme à l'époque de Godard. C'est-à-dire Pasolini... Si, à mon avis, s'il avait pu inviter Godard, il aurait invité Godard. Mais il n'y avait pas de rôle pour Godard, donc il invite Anne Wiazemski. Toujours oui. cette idée qu'on on prend son miel là où on le trouve. Et donc, il fait appel à ce patchwork d'acteurs.
Alors, on est un peu pressé par le temps. On va avancer avec Médée. Médée, c'est pareil. Il prend une star, mais qui ne chante... Et alors, la voix de l'époque... Qui n'avait un peu plus toutes ses qualités,
non,
mais il emploie donc Callas.
Ce que l'on ignore souvent, c'est que donc il fait appel à Maria Callas pour jouer dans Médée, dans ses récits mythologiques. Il y aura également l'Orestie. Callas va devenir une amie intime de Pasolini.
Presque amoureuse, il y a une correspondance amoureuse entre elles.
Elle tombe amoureuse de Pasolini, évidemment sans aucune perspective concrète et pour cause, mais elle va accompagner Pasolini, notamment Pasolini aimait aller en Afrique. Elle va en Afrique avec lui, elle l'accompagne. Elle devient en quelque sorte une on ne peut pas dire la femme de Pasolini, mais en tout cas, leurs liens amicaux durent bien plus longtemps que le tournage de Médée. Elle entre dans la vie de Pasolini. Et à mon avis, elle se reconstruit dans une période difficile où elle avait une voix qui n'était plus en mesure d'être la voix de la Callas. Elle se rebâtit, elle se reconstruit, elle se retrouve peut-être un sens de vie aux côtés de Pasolini, qui devait être... Moi, malheureusement, je n'ai jamais interviewé. Je dois avouer que je n'ai pas osé l'aborder. J'ai interviewé un très grand nombre de cinéastes italiens. Je n'ai jamais interviewé Pasolini. Non pas que la chose était difficile, parce que c'était un homme extrêmement disponible. Mais il m'impressionnait tellement que je n'ai jamais osé l'aborder pour l'interviewer. Et je crois que la rencontre avec Pasolini, pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, était quelque chose de décisif.
Oui, alors... Il a dit qu'il n'aimait pas être interviewé, mais quand même, il a répondu à beaucoup d'interviews, parce qu'évidemment, chaque film et chaque provoquait des...
Il y a un très beau livre qui vient d'ailleurs de sortir, un livre d'entretien avec Pasolini. C'est un Américain qu'il a longuement interviewé.
Oui. Hallyday, qui s'appelle.
Hallyday, voilà. John Hallyday.
Je ne me souviens plus du prénom, mais oui, c'est Hallyday.
Oui,
qu'il a interviewé, dans les années 70. Alors, on n'a pas parlé du Pasolini un petit peu contestataire et polémiste, puisqu'il a pris des positions contre l'avortement. En 68, il a dit qu'il était plutôt pour les policiers que les étudiants, que la révolte des étudiants, c'était une révolution interne, une contestation interne de bourgeois, de fils de bourgeois qui voulaient prendre la place de leurs bourgeois. Donc, tout ce personnage qui allait à contre-courant, malheureusement, il a fini tragiquement.
Il faudrait dire deux mots de salaud, quand même.
De salaud, oui, voilà. Il était en train de monter salaud et il avait un projet d'un roman qui est Petrolio, qui pouvait aussi dénoncer. C'est un témoin de son temps, mais qui dénonce. Et Salo, oui, c'est son dernier film.
Salo, c'est son dernier film, et il faut s'y arrêter ne serait-ce que quelques secondes, parce que le film va ressortir en salle. Le film est programmé dans le cadre des hommages multiples au cours de l'année à l'égard de Pasolini. Il sort en salle, et c'est un film qui évoque... les sévices pratiqués par des bourgeois sur de jeunes gens et de jeunes filles, en s'inspirant de l'œuvre de Sade. Et c'est un film d'une violence inouïe. C'est un film qui montre les tortionnaires à l'œuvre, qui débouche sur une séquence où les malheureux détenus sont martyrisés et sont tués, qui est un film à la limite du soutenable.
Oui, qui est insoutenable. Beaucoup de gens ne peuvent plus le voir, c'est vrai, oui.
Alors ça se passe dans le récit, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, la République de Salo.
Dans la République de Salo, qui est la République où c'était Mussolini, où Mussolini s'est installé après avoir été destitué à Rome, sous la protection des nazis, faut bien le dire, la marge de liberté de Mussolini était quasiment nulle. C'était un jouet aux mains des nazis, aux mains d'Hitler. Et le film raconte tout ça dans un contexte, donc dans un cadre qui est d'une cruauté extrême. On connaît les sévices que les Allemands ont fait subir aux Italiens pendant l'occupation. Et aujourd'hui, ressortir, je suis d'ailleurs très, très curieux de voir quel en sera l'accueil, quoi. Comment la presse va traiter Salo, dans la mesure où, étant un film qui date de 75, 76, beaucoup de journalistes qui écrivent aujourd'hui n'étaient même pas nés, ou étaient des enfants,
vrai,
quoi, donc qui le découvrent aujourd'hui. Comment aujourd'hui peut être perçu Salo par des critiques qui le découvrent aujourd'hui, quoi.
Et alors, l'héritage de Pasolini, pour terminer, est-ce que parmi les Italiens, il y aurait quelqu'un au niveau du cinéma? Parce qu'il était tellement multiple. Restons dans le domaine du cinéma. Moi, je vois les Siciliens Cipri et Maresco. Cipri, qui est ailleurs chef-op dans plein de films. Qui prennent des tronches, des personnages.
C'est-à-dire que aujourd'hui, à mon sens, le cinéma italien contemporain doit constamment tenir compte de ce passé d'une richesse exceptionnelle.
Oui.
Hein, parce que là, on parle de Pasolini, mais bon. Et que quand on aborde des sujets sur la cruauté, sur la tension sociale qui traverse la société italienne, est évident qu'on ne peut pas avoir Pasolini totalement à l'écart. Quoi. On ne peut que s'y référer, on ne peut que penser à lui. Et donc, dans le fond, Pasolini est quelqu'un qui irrigue encore la culture italienne contemporaine. Quoi. Et la sensibilité, peut-être au-delà de la culture, la sensibilité italienne d'aujourd'hui. Pour ceux qui écrivent, pour ceux qui tournent, pour ceux qui chantent, pour ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, la charge d'exprimer ce qu'est l'Italie.
Je pense en effet, on est d'accord. Malheureusement, le temps nous est compté. On va devoir conclure. Donc, je rappelle surtout qu'il faut se procurer ce dictionnaire encyclopédique pasolinien qui est tout sur Pasolini aux éditions Grammet. En effet, qui est c'est un pavé, mais il se lit très facilement.
Oui, il ne doit pas se lire dans la continuité.
Non,
on se promène d'une entrée à l'autre,
d'un article à l'autre. Et puis, on lit la musique, les peintres, personnages tellement riches, la langue, le Frioul, la poésie. Donc, je remercie Jean-Gédy. Merci vraiment d'avoir accordé à nos auditeurs cette petite heure avec Pasolini.
A maggio, preparatevi per l'evento musicale dell'anno. Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika vi aspettano a Torino per l'Eurovision Song Contest 2022.
En ligne à Turin, notre ami Stéphane Boschi.
Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir, Alain, sur Aligre FM, sur Radio Top Italia. Nous sommes ici en duplex de Turin, où Turin a été en effervescence pendant ces quelques jours qui a rythmé l'Eurovision. Alors l'Eurovision, ça s'est déroulé hier. Alors beaucoup d'émotions, beaucoup de musique en tout cas a fait vibrer le Palais Olimpico ici à Turin. Alors on rappelle les résultats puisque les cinq premiers ont été donc le premier l'Ukraine, deuxième l'Angleterre, troisième l'Espagne, quatrième la Suède, cinquième la Serbie et l'Italie est arrivée à la sixième position avec la chanson de Mahmoud et Blanco et leur Brividi, rappelons. La déception pour la France puisqu'elle est arrivée avant-dernière, soit à la 24e place.
Une chanson en breton aussi, c'est un peu difficile, c'était une langue un peu trop originale peut-être. Merci Stéphane, bon il n'y a plus de suspense, on sait que donc ce sera l'Ukraine qui organisera. Comment était cette chanson de l'Ukraine ?
Alors, certains disent, c'est vrai que c'était joué d'avance et que c'était plus un message politique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un message d'union et de paix que on veut transmettre. Et puis, le président ukrainien souhaite organiser l'année prochaine à Mariupol cet événement et il souhaite que Mariupol soit libre, pacifique et reconstruite. Alors, au niveau audience, au niveau France, il faut savoir que ça a fait à la tête des audiences au niveau de la télévision, avec un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, mais qui est quand même le plus mauvais score hein, depuis 2014. Rappelons que l'année dernière, l'Eurovision en France a fait plus de 5,5 millions de téléspectateurs. Et en Italie, c'est un carton, avec plus de 6,6 millions de téléspectateurs. Vous avez pu voir hier les Maneskin, Giulio La Cinquetti, bien sûr l'exhibition de Laura Pausini. C'est une belle vitrine en tout cas pour l'Italie. Et puis à travers aussi les paysages, les cartes postales vidéo, vous avez pu voir avec toutes les différentes villes italiennes.
Ok, merci beaucoup Stéphane. Merci, ciao.
Merci,
merci.